France Musique. Musicopolis. Miles Davis, chapitre 1, les débuts, naissance du cool. Il était une fois un homme qui ne faisait qu'un avec sa trompette. Mais avant de devenir cet homme-là, il avait été un petit garçon élevé dans la région de Saint-Louis, dans le Midwest états-unien des années 30. Toute cette semaine dans Musicopolis, c'est cette histoire que nous vous racontons. Comment le petit garçon de East Saint-Louis est devenu l'homme avec une trompette. Miles Davis est mort le 28 septembre 1991 à Santa Monica, en Californie, au terme d'une vie dédiée à la musique. Une vie incroyablement riche et variée, au cours de laquelle le musicien a constamment changé, s'est mille fois transformé, avec des styles successifs toujours différents, mais toujours bien à lui, dans lesquels on reconnaît sa voix propre, son identité. Alors bien sûr, une vie pareille se résume difficilement, mais en 5 émissions, nous pourrons tout de même embrosser les principales étapes et en confrontant les époques et les styles, vous montrer toute sa diversité. Davis, troisième du nom, après son père et son grand-père, est né en 1926, non loin de Saint-Louis, au sud de Chicago, en plein dans le Midwest américain. Deux générations après l'abolition de l'esclavage, les Davis ont grimpé dans la société pour faire à présent partie de la classe moyenne. Son père est dentiste et la famille est tout à fait aisée. Le jeune Miles, 3, a tout pour vivre une enfance heureuse. Néanmoins, la ségrégation est encore en vigueur et le racisme est vif, ce qui provoque une certaine insécurité chez cet enfant sensible. À la maison, sa sœur joue du piano, sa mère joue du violon. Il écoute aussi la radio. Louis Armstrong, Bessie Smith, Duke Ellington sont les musiciens que le petit Miles Davis peut entendre à la radio dans son enfance. Lorsqu'il a 9 ou 10 ans, un ami de son père lui offre une trompette et il commence à prendre des leçons. À 13 ans, sa mère voudrait lui faire cadeau d'un violon, mais son père lui offre une nouvelle trompette. Deux univers musicaux s'affrontent à travers ses parents. D'un côté, la musique occidentale, sérieuse, symbole de réussite et d'intégration. De l'autre, l'essence du jazz, avec ses racines non occidentales. Miles aura pour professeur de trompette un patient de son père, très connaisseur de jazz. Au lycée, il a des cours d'instruments tous les jours et il fait partie de l'orchestre. Il est le meilleur de la classe, tout le monde le sait. Et pourtant, les premiers prix vont toujours au garçon aux yeux bleus. « Ça m'a rendu tellement fou, raconte-t-il, que j'ai décidé de surpasser tous les blancs sur mon instrument. Si je n'avais pas rencontré cette injustice, je n'aurais pas mis autant d'acharnement à travailler. J'y ai beaucoup pensé. L'injustice et la curiosité ont été responsables de ce que j'ai fait en musique. » We'll be right back. Parmi les premiers modèles et idoles de Miles Davis, on trouve Clark Terry, un ami de son professeur de trompette qui vit à St. Louis, de l'autre côté du fleuve, et qui joue souvent avec lui. À 16 ans, Miles a pris sa carte au syndicat des musiciens. Et grâce à Terry, qui va faire pour lui office de chaperon et de mentor, il va avoir accès à la riche activité musicale de St. Louis, où de nombreux musiciens se rencontrent pour jouer. Peu à peu, Miles Davis va se faire entendre dans divers clubs. Il devient indépendant financièrement alors même qu'il est encore mineur et lycéen. Il a un premier enfant avec sa petite amie Irène, une fille nommée Cheryl. Et néanmoins, il suit les injonctions de sa mère qui ne veut pas qu'il parte en tournée avec des orchestres. « La plus grande émotion de ma vie, déclare Miles Davis, c'est quand j'ai entendu pour la première fois Deeds et Bird jouer ensemble à Saint-Louis, Missouri en 1944. J'avais 18 ans et je venais de décrocher mon diplôme de la Lincoln High School à East Saint-Louis, Illinois, juste en face sur l'autre rive du Mississippi. Un truc de première. Ça me prenait tout le corps. La musique m'habitait, je ne voulais rien entendre d'autre. La façon dont cet orchestre jouait la musique, c'était exactement ce que je cherchais. Ça et être là-haut à jouer avec eux. Miles Davis a 18 ans en 1944 lorsqu'il entend pour la première fois Deeds et Bird, à savoir le trompettiste Dizzy Gillespie et le saxophoniste Charlie Parker. Ces deux-là sont en train d'inventer le bebop, une nouvelle manière de concevoir le jazz. Pour le jeune Miles, qui a l'occasion de jouer avec eux, c'est une découverte qui bouleverse sa vie. Dorénavant, il n'a plus qu'une idée en tête, les rejoindre, les écouter, jouer avec eux. Sachant que New York est le lieu où se passe le plus de choses musicalement parlant à cette époque, sachant que là-bas, il pourra trouver Gillespie et Parker, il obtient de son père d'entrer à la Juilliard School. Une vie passionnante commence. Le jour, il apprend la théorie et la musique occidentale à la Juilliard. Le soir, il est dans les clubs où il écoute la musique en train de se créer. Il note des thèmes et des harmonies qu'il travaille le lendemain à Juilliard, quitte à sécher les cours. Le soir, il rencontre une foule de musiciens avec qui il peut jouer quelques sessions. Coleman Hawkins, Billie Holiday, Thelonious Monk. Il réalise finalement qu'il n'entrera jamais dans un orchestre symphonique et qu'il perd son temps à la Juilliard. Son père le comprend et le soutient. En automne 1945, Miles entre dans le quintet de Charlie Parker. Le groupe va réaliser l'un des premiers enregistrements de bebop, considéré par la maison de disques Savoy comme le plus grand enregistrement de l'histoire du jazz moderne. Dans cet enregistrement de Now the Time, un thème de Charlie Parker, on entend Parker lui-même au saxophone, tandis que Dizzy Gillespie est au piano, Curly Russell à la contrebasse, Max Roach à la batterie et Miles Davis à la trompette. Si beaucoup s'enthousiasment aujourd'hui pour ces premiers solos de Miles Davis, trouvant qu'on y sent déjà toute son identité à venir, en revanche, les critiques de l'époque sont acerbes. Dans Downbeat, par exemple, à propos de Now the Time et de Billy's Bounce, ces deux faces sont un excellent exemple d'un autre aspect de Gillespie, dit le journal. Son mauvais goût et le fanatisme mal avisé de son style désinhibé. Seul Charlie Parker les sauve. Le trompettiste, qui que soit ce jeune fourvoyé, joue Gillespie comme tous les jeunes qui copient leur idole, avec toutes les fautes, le manque d'ordre et de sens, la complète adhésion aux acrobaties techniques. La période durant laquelle Miles Davis joue avec Parker et Gillespie est un moment d'apprentissage formidable pour lui. À 19 ans, il est en train de capter le nouveau style bebop qui se crée sous ses oreilles. Mais la vie des jazzmen n'est pas un long fleuve tranquille. Deeds et Bird partent pour la côte ouest où ils ont été engagés. Et c'est là qu'ils se sépareront. Gillespie n'en pouvant plus de ne pas pouvoir compter sur Parker, dont l'addiction à la drogue est un problème incontrôlable. Bird sera interné quelques mois en Californie et pendant ce temps, Miles tourne avec l'orchestre de Billy Eckstein. Il vient d'avoir un deuxième enfant. Au début de Donna Lee, un thème de Miles Davis, enregistré avec la formation de Charlie Parker en mai 1947, on entend d'abord comment la trompette de Miles double le saxophone de Parker pour énoncer le thème. En 1947, Miles Davis fait partie à demeure du quintet de Charlie Parker. qui joue à New York et enregistre quelques faces de 78 tours pour la firme Savoy. En peu de temps, à 21 ans, Miles est devenu l'un des quelques grands trompettistes sur la place de New York. Il commence à être assez demandé et à prendre son indépendance. C'est grâce à ce thème, Donnelly, que Miles Davis fait la connaissance de Gil Evans, qui s'est fait une spécialité dans les arrangements, en particulier pour l'orchestre de Claude Tornil. Evans lui a demandé s'il pouvait réaliser un arrangement de son thème, ce que lui a accordé Miles. De son côté, Miles a demandé à Evans de lui laisser étudier ses partitions. Il lui confie également ses propres compositions pour avoir son avis. Gil lui répond généralement qu'elles sont bonnes, mais encombré de trop nombreuses notes. À cette époque, Miles pense qu'il faut écrire beaucoup de notes. Alors que Miles Davis commence à se détacher de Charlie Parker, il fait d'autres rencontres, notamment chez Gil Evans, qui, un peu plus âgé, devient pour lui une référence. Evans vit dans un très petit appartement en sous-sol, dans la 55e rue, une pièce sombre où, dès qu'on entre, on oublie le temps, la saison. À toute heure, il y a du monde qui entre ou qui sort. Evans aime la compagnie des musiciens, pour qui il est une sorte de mère poule. D'après un de ses amis, Evans est gentil, sage, profond, extrêmement perspicace, sans aucune amertume. Il semble avoir toujours une réponse réconfortante à n'importe quel problème. Autour de Gil Evans, Miles Davis va rencontrer les saxophonistes Jerry Mulligan et Lee Konitz, le pianiste John Lewis. L'idée est en train de naître de monter un groupe pour expérimenter un nouveau son qui se distingue des excès virtuoses du bebop. Au milieu de l'année 48, beaucoup de musiciens qui gravitent autour de Gil Evans sont libres. On commence à engager Miles comme leader de formation et ce rôle lui convient très bien. Justement, il a un contrat pour 2 semaines dans une boîte avec un groupe de 9 musiciens. Miles a déjà un nom et un potentiel musical énorme. En plus, il a des qualités d'organisateur rares dans ce milieu. Miles a pris les initiatives et il a mis la théorie en pratique, raconte le saxophoniste Jerry Mulligan. Il a fixé les répétitions, il a loué des salles, appelé les musiciens, et d'une manière générale, il a fait claquer le fouet. Miles dominait le groupe complètement. La nature même de l'interprétation était la sienne. Non seulement Miles était l'organisateur, et sans lui, nous aurions procrastiné, rien ne se serait fait. Mais plus important encore, penser à Miles comme à la voix principale affectait la manière dont nous écrivions pour le groupe. Stylistiquement, Miles était le choix parfait. Il est difficile d'imaginer un autre trompettiste qui aurait eu le même impact sur l'ensemble. L'approche mélodique de Miles et sa partie principale ont été une influence particulière sur le son définitif de l'ensemble. Le petit groupe de 9 musiciens, engagé au Royal Roots durant 2 semaines en août et septembre 1948, n'a pas vraiment intéressé le public et l'engagement n'a pas été prolongé. Mais quelques critiques et musiciens ont été impressionnés par cette nouvelle musique. En janvier 1949, Miles signe un contrat avec la firme Capitol pour graver 12 faces de 78 tours de ce nouveau jazz encore assez controversé. En 3 séances, les 12 faces seront mises en boîte. Mais à cette époque où le public achète plutôt les disques de Bing Crosby, Frank Sinatra et des Andrews Sisters, c'est un flop. Il faudra attendre 1957 pour que les 12 morceaux soient réédités ensemble sur un album qui s'appellera alors Birth of the Cool, la naissance du cool. C'est le 22 avril 1949 que Miles Davis, avec son nonnette, enregistre Boplicity, un thème qu'il a composé sous le pseudonyme de Cleo Henry. C'est l'une des 12 faces de Birth of the Cool. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Thibault pour le mixage, Élise Kravets pour les recherches et le site, et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.